Alors, pour votre information, la séance est maintenant enregistrée. On a débuté à 20h27 et je recevrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour avec point affaires nouvelles qui reste ouvert. Marco dénommé, Martin Lefebvre. Alors, juste pour vous informer au niveau du mot de la préfète, on vous l'avait indiqué dans l'infolettre. Mais à la réunion de la FQM, la première réunion du conseil d'administration de la FQM, j'ai été élue au comité exécutif de la FQM et j'y vais avec plaisir. On m'avait approché pour que j'aille à la vice-présidence, mais il y a une jeune femme que je voyais bien à la vice-présidence parce qu'elle constitue la relève au niveau de la FQM. Et j'ai appuyé sa candidature à elle. J'ai par ailleurs maintenu ma participation comme présidente de la commission sur le développement social et communautaire, le patrimoine et la démocratie. Une commission qui a fait beaucoup, notamment pour les services de garde dans la dernière année, dans les deux dernières années. Alors, dans ce contexte-là, je trouvais que c'était une belle continuité pour la commission permanente et une belle avenue aussi pour le comité exécutif. Ça, c'est pour la FQM. Je vais finir mon mot de la préfète avec le... C'est pas l'employé du mois, là, mais j'ai souvent mis en lumière le travail que certains d'entre vous faites ou avez fait au cours des années dans vos milieux. Mais on parle pas beaucoup des actions qui sont faites sur le plan territoire, sur le plan de l'impact sur le territoire. Là, je mentionne qu'il y a quand même un maire qui a une vision de territoire assez forte pour être capable de sacrifier un très bon employé dans son milieu en disant, moi, ce que j'ai à offrir à une personne de ce calibre-là, ça ne le gardera pas sur le territoire. Mais les compétences de la personne sont telles qu'il faut tout faire pour maintenir cette personne-là sur le territoire. Luc Lalonde avait identifié un de ses employés-là et on a eu l'occasion de le rencontrer. Ça, c'est avoir une très belle vision de territoire. Et je pense que s'élever au-dessus la seule problématique d'une municipalité pour réfléchir comment on maintient des compétences et des expertises sur le territoire, ça valait la peine d'être mentionné. Je sais qu'à tous les niveaux, dans toutes vos municipalités, dans les villes, vous faites des efforts incroyables pour animer le milieu, pour le développer, pour avoir les compétences dans votre milieu. Mais Luc, merci beaucoup d'avoir réfléchi en termes de territoire dans ce dossier-là. Probable qu'il y aura une personne qui va travailler au Témiscamingue avec succès pour le bien de l'ensemble du territoire témiscamingue, avec les compétences que la personne a et qu'on a rencontré. Merci beaucoup.
Ça fait l'affaire à moi, mais non d'avance.
Là, c'est le mot de la préfète. J'ai fini. Je ne vais pas plus loin.
N'oubliez pas que c'est comme une contrainte qui est venue à la société. Après, on a fait aussi la réflexion. Vous savez, bon. Et ce personnel avait quand même quitté la région, on n'avait pas offert.
Mais ça prend une bonne réflexion de territoire. Merci, Luc. Alors, on passe à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier. Vous avez reçu le procès-verbal. Est-ce qu'il est conforme à nos discussions? Et là, je vous le dis tout de suite, moi, je repasse au procès-verbal, mais je ne regarde jamais la liste des noms. Alors, je vous le dis tout de suite, est-ce que vous avez des commentaires, des modifications, ou est-ce que le procès-verbal est conforme aux discussions? Sinon, je recevrai une proposition. Alexandre? Appuyé de Bruno, parfait. Pas de question de l'assistance puisque nous siégeons à 8 kilos. On n'a rien reçu. Oui, tu pourras avoir une question, mais est-ce qu'on a reçu des questions par voie électronique? Oui, tu peux y aller.
En fait, au mois d'octobre, on avait demandé à envoyer le ministère des Affaires municipales concernant le fonds région réhabilité, envoyer une résolution là-dessus, à savoir signature de ce fonds-là. Est-ce que ça a été fait? La résolution a été envoyée, puis on a-tu eu réponse?
C'est-tu les résolutions qu'on demandait sur l'activation des volets 3 et 4? Oui. Là, il y a eu une rencontre à cet égard-là, parce qu'on a fait la démarche, effectivement, qu'on le fait avec la conférence des préfets. Puis quand la conférence des préfets a rencontré le ministère le MAMACH en région nous a rencontrés. On a déposé nos revendications, nos griefs, parce qu'il faut bien dire que c'était ça. Et les réponses nous sont revenues, là, les réponses qui nous manquaient pour agir sont revenues. De sorte qu'on met en œuvre actuellement, on est en mise en œuvre des volets 3 et 4 qui n'étaient pas encore actifs dans notre fonds région ruralité.
Fait qu'on avait des sommes de prévues là-dessus pour l'agriculture.
Oui, puis c'est tout.
Ça a été accepté, ça aussi.
On complète, nous, on est en démarche là, pour compléter, mais il n'y a aucune somme qui ne reviendra pas parce que c'est un fonds. Alors, à chaque année, il y a du temps disponible. Ce qui n'est pas utilisé une année nous reste et elle est reportée à l'année suivante. C'est un fonds, donc il n'y a pas de. C'est pas un programme qui reprenne l'argent si on ne l'a pas utilisé. C'est un fonds et ça va nous revenir. Ça va? Alors, la question est répondue? Merci beaucoup. Alors, on va être dans. Ça va pour tout le monde? On va être dans les grandes priorités maintenant de la MRC. Suivi des priorités 2022 de la MRC, développement de la filière hydroélectrique communautaire. Il y a eu une première rencontre du comité de mise en œuvre du projet Animiki. La deuxième rencontre est prévue demain. Et actuellement, il y a trois axes d'intervention qui sont importants pour nous. D'abord, répondre à l'échéancier soumis dans l'appel de projet. Actuellement, toutes les échéances qui étaient dues, on y a répondu. La deuxième étape, c'est vraiment la constitution de la société en commandite et les ententes avec les différents partenaires. Le travail est en cours sur ce sujet-là. Et la troisième étape, c'est pour nous d'avoir la rencontre plus localement pour être en mesure de compléter notre participation. Et on est à la recherche d'une ressource. La description de tâche est beaucoup axée sur le génie et tout ça. Donc, on est à la recherche d'une ressource pour être vraiment agent chargé de projet sur le dossier, ici sur le territoire, pour non seulement compléter le dépôt du projet, mais aussi voir aux différentes étapes quand le projet démarre. Donc, on en est là avec, et actuellement, on répond aux objectifs de l'appel de projet. Il y a des questions, des commentaires? Ça va? Alors, deuxième grand dossier, suivi des grandes priorités de l'attractivité et la main-d'œuvre. Vous avez dans les éléments d'information, on a participé de façon très active à la semaine des régions. Vous avez vu que durant cette semaine-là, la politique qui avait été adoptée à l'automne dernier a été officiellement présentée au public. La politique d'attractivité et d'installation durable des nouveaux habitants de Témiscamingue. On a fait également quelques démarches durant la semaine des régions. Maintenant, on est au point 6.2.1. Proposition de Sparkling pour la campagne en attractivité et tourisme. Alors, je te laisse la parole, Lynn, là-dessus.
Oui, donc, vous avez eu la présentation en séance privée. On veut pas vendre les punchs en séance publique. Donc, la résolution va mentionner que ce serait d'entériner la proposition de Sparkling et de procéder au lancement de diverses actions au cours des prochaines semaines pour la co-réalisation de la campagne en attractivité et en tourisme pour l'année 2022, et on réitère que le plan doit respecter le budget initial de 200 000 $ tel qu'adopté au budget 2022.
Questions, commentaires là-dessus? C'est proposé par Daniel Barrette, secondé par Lynn H. Ça va pour tout le monde? Ça va? Alors, on passe au point 6. Vincent, OK.
Ah, OK.
OK, rappelez-moi que Vincent proposera ou appuiera la prochaine résolution. Merci, Vincent. Juste pour la prochaine information, le programme, vous vous souvenez qu'en décembre, après l'Assemblée des MRC, la ministre avait annoncé 200 millions de dollars pour du logement abordable et elle avait annoncé qu'il y aurait un règlement de mise en œuvre où nous, comme instance, on pouvait accompagner des projets concrets qui permettaient de développer sous différentes formes du logement abordable pour des bas ou des moyens revenus et que les OBNL, les coopératives et même l'entreprise privée pouvaient être mis à contribution à l'intérieur de ce programme-là. Le programme a été annoncé le 3 février dernier. Il est présenté actuellement sur le site du ministère des Affaires municipales. Nous, on est en mode actuellement de compléter l'analyse et l'inventaire, l'état de situation sur les logements au Témiscamingue qui avait été initié par la SDT et pour laquelle on a consenti un surplus budgétaire. Mais en parallèle à ça, des initiatives locales ou territoriales peuvent être mises en œuvre pour rendre accessibles et disponibles des logements abordables. Le programme est disponible. On pourra mettre le lien dans l'infolettre qui vous parviendra. C'est déjà fait, merci beaucoup. Alors, c'est déjà fait, mais on peut, à partir du programme, réfléchir des actions. Et nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment s'il y a des actions qui se mettent en œuvre, qui seraient intéressantes de réfléchir à hauteur de MRC. Mais en ce moment, tant les municipalités que la MRC, on peut agir et présenter des propositions à l'intérieur du programme actuel. Alors, c'est une de nos priorités. Le programme est maintenant disponible. À nous de l'utiliser pour le mieux. Il y a plusieurs municipalités qui ont des projets. Alexandre, toi, il y a Marco. Il y a plusieurs possibilités d'utilisation de ces enveloppes-là. N'hésitez pas à y aller. Il y a des questions, commentaires là-dessus? Mario? C'est le milieu municipal qui doit être derrière. Et le milieu municipal peut subventionner le privé. Il s'implique. On ne peut pas juste dire au privé, tu vas chercher du budget là. Le milieu municipal doit être impliqué dans la mise en œuvre des projets qui seront réalisés pour du logement abordable. Oui, Luc?
Ou une corporation qui dépose.
Tout à fait. Ou une corporation qui dépose. Tout à fait.
On a quand même charte de nos lois qui avait déjà l'économie sociale dedans. Et en modifiant un peu les règlements minéraux, le plein pouvoir dedans. C'est un avenue, je pense qu'il est formateur parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de gens qui quittent la région, les immigrants qui arrivent ici, parce qu'ils n'ont pas de droit. Je pense que ce dossier-là va pouvoir l'activer à une telle grande. Parce qu'on les amène. Pour être capable de s'éloigner. Au début, on disait le transport. Le transport, c'est plus facile à régler. Parce qu'un cas au niveau, c'est plus facile que une maison qui est pas là. N'oubliez pas que ces gens-là qui arrivent de l'extérieur, surtout du secteur de la ville, ça va être plus facile. Dans une France, ça sera vraiment très fort. Il faut bouger vite. Là. Ça va prendre ses rôles.
Alexandre?
De renchérir sur ce que M. Barret disait aussi tantôt. Là, nous, on comptait aussi sur le volet 4 de Ferrer, de peut-être aider les gens.
C'est une des façons, peut-être, justement. On s'est activé là-dessus depuis. Mettons que les mamans, j'avais eu une mauvaise rencontre. C'était pas une bonne journée pour nous. On a eu les réponses qu'on souhaitait avoir. Alors, sur le logement, on comprend qu'il y a urgence. Il y a un programme, puis dans une de nos séances de travail, on pourra décortiquer ce qu'on peut faire, ce que chaque municipalité peut faire, ce qu'on peut faire sur le plan territorial, si vous souhaitez. On pourrait travailler ça pour vraiment avoir des propositions concrètes. Une séance de travail serait importante.
Chaque municipalité connaît son territoire.
Oui.
Surtout le Bourgain, il y a plusieurs maisons possibles, bonnes maisons solides, et puis personne ne peut les aider. souvent, c'est un agriculteur qui vient semer le printemps et qui récolte l'automne. Cette maison-là est utilisée des fois un mois par année, mais pour une chambre. Est-ce qu'il y a des ententes qui peuvent se faire avec ces propriétaires-là en accent, en lui disant qu'il l'a laissé quand même, par contre, prendre des ententes? C'est des très bonnes maisons. Des fois, on parle trop bâtir en mieux. On a sur notre territoire qui sont même pas utilisés.
Ça pourrait aller plus vite qu'on pense.
Oui.
Des fois, c'est des questions de journal.
Oui, mais il faut fou l'essayer.
Oui.
Moi, j'en ai quand même deux dans mon village.
Ben, dans le contexte, Nico a dit que ça nous prendrait une réunion de travail. Il faudrait pouvoir avoir une réunion de travail qui porte sur ce sujet-là. Et je pense qu'on va, activer là, une de nos prochaines réunions de travail. Traitera de ce sujet-là. On pourra décortiquer les enjeux peut-être de façon plus, plus complète.
On va voir l'étude.
Oui, l'étude va nous donner également de la matière. Il y a des municipalités qui sont prêtes déjà à poser des gestes, donc on va activer le sujet. Donc, point suivant, connectivité, les grandes priorités. Rencontre aujourd'hui avec l'équipe de Vidéotron qui s'active vraiment, très, très activement au déploiement de la fibre optique. Vous avez certainement vu la publication de la MRC sur la tête de ligne. A été installé. Alors, juste pour vous donner quelques informations qui nous ont été partagées aujourd'hui par M. Jean-Marc Chartrand et par Fanny Way, qui sont les promoteurs hein, dans le sens, c'est ceux qui sont responsables du projet ici. Pour rappeler que Vidéotron a à peu près 8500 km de fibre optique à déployer partout au Québec dans le cadre du projet Québec branché. Et que sur les 8500 km, il y en a presque 1000 qui est juste au Témiscamingue. Alors, c'est un des gros endroits. Il y a plusieurs étapes qui ont été complétées et demain, on va vous donner. C'est tu fais déjà le partage du document?
Le one-pager?
Oui. Sur la plateforme. Le one-pager sur la plateforme, parfait. Alors, vous avez dans l'information qui est partagée par qui est sur la plateforme, qu'on vous demande de ne pas partager outre mesure, ça nous donne le statut d'avancement auquel ils sont rendus. Il faut savoir qu'il y a 3140 adresses supplémentaires au Témiscamingue qui ont été identifiées comme étant des adresses orphelines. Donc, il fallait ajouter aux quelques milliers d'adresses qu'il y avait déjà sur la liste de Vidéotron. L'inventaire a été complété et actuellement, les relevés nécessaires, on les voit beaucoup, les gens de Vidéotron, et plus on les voit, plus on va les voir. Les relevés nécessaires pour la construction des lignes, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'ils font une autoroute entre le Témiscamingue et l'Abitibi-Ouest. Il va y avoir des secteurs, il va y avoir une ligne majeure entre les deux MRC. Et ils ont réussi à accomplir dans un secteur où il n'y avait aucun poteau. Ils ont réussi à déployer tous les poteaux dont il y avait besoin avec toutes les autorisations requises. On parle de certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, là, ou des poteaux en milieu ville. Ça a été très rapide. Donc, dans ce contexte-là, je vous invite juste à prendre connaissance du statut d'avancement du dossier qui va très, très bien pour le territoire ici. C'est actuellement, avant même que Vidéotron ait affiché que ce sera disponible ou que les gens pourront être branchés, il y a près de 50 citoyens qui ont déjà signifié qu'ils voulaient obtenir les services de Vidéotron. Et il n'y a pas encore le service n'est pas encore là, ils sont en train de déployer la fibre. Il y a tout de même une cinquantaine de citoyens qui ont dit on voudrait être branchés. Alors, le dossier avance bien. Par ailleurs, il y a des discussions supplémentaires qui ont lieu en ce moment entre la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, et le ministère pour améliorer la desserte cellulaire. On se souvient que l'Abitibi-Témiscamingue a bénéficié d'un projet mobile AT. qui permettait de déployer la desserte cellulaire, mais il reste toujours des secteurs non couverts ou mal desservis. Et on travaille actuellement pour obtenir de pouvoir compléter le réseau, le circuit et de couvrir les zones mal desservies. Pardon. Alors, c'est en cours actuellement sur les deux plans. Autant connectivité, le Vidéotron, une chose qui est importante à rappeler, c'est que le déploiement de la fibre doit être complété pour le mois de septembre 2022. Le branchement des usagers ou des abonnés pourra avoir commencé avant la fin du déploiement de la fibre, mais il va se continuer après la fin du mois de septembre 2022. Alors, c'est le déploiement de la fibre et qu'elle soit rendue à chaque adresse qui sera nécessaire d'ici la fin de septembre 2022. Questions, commentaires là-dessus? Luc?
On sait qu'il y a des villages complets.
Oui.
Est-ce que la population-là vous sont?
Ben, ils vont en déroulage de fibre.
Oui. Ben, après que la fibre est rentrée, mettons exemple, à Bethlehem. Est-ce qu'ils vont, continuer le travaux pour la fibre? Est-ce qu'ils vont collecter ces rangs-là avant de...
Quand dans un village, quand dans un environnement donné, la fibre va être tout installée, 30 à 45 jours avant, Vidéotron va avoir fait des interventions dans les communautés données pour informer les gens qu'ils pourront se brancher, pourront demander un branchement. Monsieur Drouin, il y avait quelqu'un d'autre avant, Roger Boutissier.
Il y a une cinquantaine de citoyens qui ont déjà signifié leur intérêt. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Est-ce qu'on doit encourager ça?
Bien, en fait, c'est le site. C'est sur le site de Vidéotron. Là, il y a un site. Vous l'avez sur votre one pager. Puis les gens sont allés se renseigner. Puis il y avait des endroits où tu peux mettre des commentaires. Puis ils ont dit je donne mes coordonnées. Je voudrais que vous. Je suis intéressée à recevoir le branchement. Comme ça, c'est fait.
Est-ce qu'on doit encourager ça?
On peut l'encourager, mais de toute façon, quand Vidéotron va être en période marketing, okay, quand on va être en période d'annoncer les services et de vouloir brancher les gens, eux vont le faire. Eux vont faire les exercices requis pour donner l'information puis faire vraiment la vente.
Vous voyez, c'était déjà là. Les gens veulent.
C'est possible. Mais de toute façon, eux ont prévu qu'en phase de ce qu'ils appellent la phase marketing, puis dans le One Pager, là, vous avez les phases qui sont à venir, là, mais les phases branchement, marketing et tout ça, là, ça va être ils ont toute une stratégie pour rejoindre toutes les adresses qui auront été branchées. Monsieur Drouin.
Septembre 2022, tout le monde va être branché, mais n'est pas branché. Il y a une date quand est-ce que tout le monde va être branché. Ça va être septembre 2023.
Non, ce ne sera pas septembre 2023. Ça va être plus vite que ça.
Ça va être rapide.
Ce qui est le plus long, c'est de déployer la fibre optique. OK? C'est une fois que c'est fait, c'est juste d'inscrire les clients, de répondre à leurs besoins de forfaits. Et on rappelle que les forfaits sont les mêmes ici à Montréal, c'est de répondre, c'est quel forfait qu'ils veulent, de répondre à leurs besoins de forfait, puis de les inscrire, puis de mettre en branle, puis de... Non, ça n'ira pas en septembre 2023. Là. Ça, c'est vraiment juste une question de...
Non, ça me rappelle la réunion qu'on avait eue à Guy, qui m'a amené du branchage en 2022. Mais brancher, ça va pas tout vous dire comment est-ce que ça va être septembre qu'elle donne. Puis en passant, il faudrait commencer à faire, parce que l'après-midi, vous allez voir. Donc...
On va leur dire. Ça va pour tout le monde? Oui, excuse-moi. Oui, vas-y, M. Velkir.
Oui, moi, je voulais savoir s'il y avait une façon de savoir si vraiment notre adresse était enregistrée, parce que il y a un nouveau secteur par chez nous dans lequel j'habite, d'ailleurs, puis les gens essayaient de faire des... De le s'inscrire, puis à ce moment-là, c'est difficile parce que même Google ne voyait pas notre chemin. Donc, il fallait y aller un peu au hasard, puis on avait une adresse là, avec G-A-B-C-D, en tout cas, c'était assez. Mais on pouvait continuer le processus. Sinon, au niveau de... Quand on essayait de s'inscrire, si on n'y allait pas de cette façon-là, on n'était pas capable de finir le processus d'inscription. Donc, je me demande si, avec une adresse aussi bizarre que ça, on est quand même inscrit dans le... Puis, est-ce qu'il y a une façon de le vérifier?
Dans les 3000 et quelques adresses qui ont été retournées au gouvernement, à Vidéotron, qui sont au gouvernement actuellement, vos adresses sont là-dedans. Les adresses de votre secteur sont là-dedans. Par ailleurs, quelque part, mois de mars, on disait mi-mars, fin mars, il va y avoir une carte interactive qui va être disponible. Ça va être faite par le gouvernement, ça va être par québec.ca. Et vous allez pouvoir voir votre résidence, votre adresse. Mais actuellement, nous, la garantie qu'on a eue, c'est que les adresses, toutes les adresses branchées Hydro-Québec auront accès à la fibre optique. Vous aurez l'opportunité d'être branché à Internet haute vitesse. Ça, c'est la garantie qu'on a eue. Puis votre adresse, là, je confirme, Lynn, parce qu'elle a fait le suivi très serré auprès des municipalités, votre adresse est dedans, dans les 3000 adresses qui ont été ajoutées.
Parfait. Je ferai le message aux autres.
Merci. Merci beaucoup.
Merci.
D'autres questions là-dessus? Alors, on continue. Les enjeux ponctuels. Alors, dans les enjeux ponctuels, on a le comité santé citoyen s'est adressé par lettre au premier ministre du Québec pour revendiquer, quoi plus, des soins de santé dont la gouvernance est locale et sur le territoire. Ils ont documenté pourquoi c'est important et la nécessité de le faire. La MRC a déjà pris à quelques occasions, a déjà adopté à quelques occasions des résolutions pour revendiquer la gouvernance locale en soins de santé. Est-ce que ce soir, vous êtes prêt à appuyer le comité santé citoyen, qui est un comité conseil auprès de la MRC en matière de soins de santé, dans la démarche qu'il a faite directement auprès du premier ministre, M. Legault? Ça pourrait se traduire par une résolution du conseil de la MRC qui appuie la démarche du comité santé citoyen et une lettre au premier ministre qui dit pourquoi, de la même façon que le comité le dit, qui dit pourquoi la refondation du réseau de la santé doit passer par des gouvernances plus locales. Seriez-vous à l'aise d'appuyer le comité santé citoyen dans cet effet-là? Alors, c'est une proposition de Jocelyn Cardinal, appuyée de Mario Drouin. Excuse-moi, Vincent, j'ai oublié. Je reviendrai tantôt. Est-ce que quelqu'un est contre? Ça va? Alors, Daniel, pour le complexe des eaux profondes.
Bon, en fait, vous avez fait un petit rapport, mais vous rentrez de c'est qu'au niveau de l'ingénierie, ça va être un petit peu plus long parce qu'on se doit faire une étude technique sur le terrain et ça ne peut pas se faire en plein hiver quand même. Ça devrait être fait fin mars, début avril. Prétendre, on
Avez-vous des questions pour Daniel? Oui, Alexandre.
À date, on n'a rien et il n'y a rien qui s'applique.
D'autres questions? Vincent, oui?
J'aimerais avoir un petit résumé de ce qui vient de se dire parce qu'on n'a absolument rien entendu. En tout cas, moi, j'ai rien entendu.
OK. Alors, Daniel a expliqué que les travaux vont bon train avec les architectes et les ingénieurs, mais qu'actuellement, ça prend absolument une étude géotechnique qui va un peu retarder l'ensemble du projet parce qu'une étude géotechnique ne peut pas se faire quand le sol est gelé. Yeah. Donc, bon. Et la deuxième question, c'est Alexandre qui a demandé s'il y avait, si on savait s'il allait avoir un autre appel de projet dans les loisirs et infrastructures de loisirs. Et Daniel a répondu, on espérait, c'est pour ça qu'on veut être prêt. Et puisqu'on est en année électorale, c'est possible, mais ce que nous, on a comme objectif, c'est être prêt lorsque l'appel de projet sera déposé. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est bien résumé? Ça répond à ta question?
Merci beaucoup.
C'est bon. D'où l'importance de parler fort. Alors, point 7.3, les COVID et les assouplissements, on vous a mis un résumé des quelques assouplissements. Je pense que ceux qui sont les plus importants, c'est la tenue des conseils municipaux à partir du 21 février. Les conseils pourront se tenir en présence de public à 50 % de la capacité des salles. Et à partir du 14 mars, il n'y aura plus de limites. À partir du... donc, ce soir, on est à huis clos, mais la prochaine séance pourra se tenir devant public. Et simplement pour vous informer que depuis le 14 février, on a fait quand même beaucoup de démarches avec le réseau de la santé. Ici, le responsable Patrick Thibault et le ministère pour obtenir que les Titans et les Pirates puissent tenir leur match dans leur aréna respective et devant public. Ce qui était possible à partir du 14 février. Donc, on ne peut pas dire dossier réglé, mais bon, il y a une évolution, ça avance dans le contexte. On vous a mis l'information dans vos notes. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Vincent, c'est une vieille main ou c'est toujours ta... C'est une vieille main, OK. Donc, ça va pour ça. On passe au point 8. Là, je vais laisser la parole à Daniel... Daniel Dufault n'est pas là? Daniel Urbaniste?
Bonsoir.
Que faites-vous là? Vous êtes en vacances? Salut, Daniel.
Bonsoir. Le point 8 de l'ordre du jour, c'est en rapport avec la zone d'intervention spéciale, qui est une zone inondable imposée par le gouvernement en 2019, pour laquelle la MRC et plusieurs municipalités avaient demandé d'être exclues. La MRC a également demandé d'être exclue en 2021. Alors, le point 8, c'est un suivi par rapport aux deux dernières réunions du Conseil. Vous aviez demandé, Mme Bolduc, de présenter des propositions. Alors, il y en a deux dans l'ordre du jour. Ce serait d'utiliser les nouveaux pouvoirs prévus dans une nouvelle loi, qui est la loi 67, qui a été adoptée il y a quelques mois par le gouvernement, qui permet à une MRC de se faire déléguer la confection d'une nouvelle carte de zone inondable, parce qu'on sait que la limite de la zone inondable imposée en 2019 est imprécise. Alors, ce serait de se faire déléguer ce pouvoir-là, et d'avoir une nouvelle zone inondable, pour la préciser vraiment, ou soit, puis ça peut être les deux, là, si vous êtes d'accord, d'adopter un règlement qui préciserait à quelles conditions on peut construire à l'intérieur de la zone inondable.
Dans un cas, merci beaucoup Daniel, dans un cas comme dans l'autre, il est intéressant de poser les gestes. On est insatisfait de la ZIS telle qu'elle a été proposée et je pense que j'ai quelqu'un à côté de moi qui se propose de faire la résolution. Nico Gervais propose. Vincent, t'appuies? OK.
Mais pourquoi?
Nico Gervais, Vincent Gingras. T'as pas compris pourquoi? Bon, puis.
Mettons. Est-ce que quelqu'un s'oppose?
Est-ce que quelqu'un est contre? Oui, ça va pour tout le monde?
Okay.
Merci beaucoup, Daniel. Alors, pour votre information, Daniel est en vacances. Alors, ce soir, il est avec nous pour nous donner cette information-là, ce n'est pas banal. Projet 9, projet Living Lab et Charlevoix en arts et médecine, demande d'appui. C'est un projet qui a été accordé dans la MRC de Charlevoix, dans la région de Charlevoix, pour mettre en valeur les projets particuliers des besoins en santé et en développement de soins de santé dans les milieux ruraux. Et le projet Les Émilades, c'est un projet qui fait part de ces besoins-là et qui fait parler les gens à l'intérieur d'activités de scéniques et circassiennes. Scénique, c'est un peu théâtral, et circassienne, c'est avec les activités de cirque. Donc, c'est une façon aussi de supporter une chaire de recherche et d'innovation en médecine d'urgence qui fait du travail dans les communautés rurales. Et c'est une façon aussi de manifester que les résultats de cette recherche-là, ça va nous intéresser, nous, pour le déploiement de services de médecine dans nos milieux. Alors, la demande consiste à appuyer la chaire de recherche et d'innovation en médecine d'urgence dans leur démarche qui vise à financer leur recherche et qui vont aussi servir à la diffusion du spectacle Urgence rurale 360. Est-ce que j'ai un proposeur? Question, commentaire? Proposé par Lynn? Appuyé par Jocelyn? Alors, ça ne nous demande pas d'argent, ça demande simplement qu'on manifeste notre intérêt, non seulement à ce que la recherche se fasse, mais aux résultats de la recherche. Ça va pour tout le monde?
Oui.
Alors, on va passer au point 10, le fonds région-ruralité. Je vais passer la parole à Véronique.
Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien.
Oui, très bien.
Excellent. Donc, ce soir, je vous présente une demande que le comité du GAM a reçue en novembre dernier, mais qui a été analysée seulement en février et qui était une demande qui est adressée au volet 2, donc le volet qui est pour les projets spéciaux et que l'appel est en continu. Ça a été présenté par les promoteurs d'Anglier et le projet, c'est le renouvellement de l'exposition permanente qui se trouve au hangar du site historique Théé Drépeur. Et dans le fond, c'est vraiment la refonte de l'exposition qui est là. Donc, vraiment revoir l'exposition pour qu'elle soit plus immersive et présenter le contenu de façon plus claire et évolutive. On parle d'un circuit qui serait maintenant interactif, donc axé davantage familles, enfants, groupes scolaires qui sont les publics cibles du musée. Différentes sections qui seront présentées ou ajoutées, donc expérience multimédia interactive, des bornes interactives avec écouteurs, images au mur, animation 3D, panneaux interactifs et aussi des jeux multimédia, donc pour reproduire la marche sur billes de bois et le lancer de la hache, et aussi le développement d'un programme éducatif bilingue pour rejoindre davantage le milieu scolaire. La demande qui est adressée est de 10 000 $ sur un projet total de 363 000 $ et au niveau des autres bailleurs de fonds, il faut savoir que les promoteurs d'Anglier s'engagent à mettre 40 000 $ dans le projet. La municipalité les appuie pour 8 000 $ la Caisse des Jardins pour 5 000 $ et il y a un programme spécifique au ministère de la Culture qui est là pour appuyer le renouvellement d'expositions permanentes. Et il y a une demande en cours qui est non confirmée de 262 000 $ ainsi qu'une demande à Patrimoine canadien de 38 000 $ Donc, un est tributaire, là, l'acceptation de un va enclencher l'acceptation de l'autre dans le cas de ces deux demandes qui sont en attente. Au niveau des faits saillants que le comité du GAM a souligné pour ce projet-là, c'est que ça soutient la réalisation d'un projet qui a une pérennité parce qu'une exposition de cette envergure-là a un horizon de plus de 5 ans, serait mis en place dès 2023. C'est un projet qui touche aux préoccupations territoriales que sont le tourisme et l'image du territoire. C'est un projet qui a un impact en termes d'attractivité, mais aussi en termes de retombées au niveau de l'achalandage touristique. Au projet, c'est indiqué qu'il y avait des cibles d'achalandage d'augmentation de 10 % pour l'an 1, 15 % l'an 2, 20 % l'an 3. C'est un projet qui est axé sur l'innovation avec une exposition multimédia qui intègre le numérique. Avec cette nouvelle exposition-là, les promoteurs d'Anglier visent à développer un produit d'appel. Qui représente un investissement sur notre territoire de plus de 350 000 avec des partenaires comme le ministère de la Culture et Patrimoine canadien. On soulignait que la demande ne représente que 3 % du montage financier et qu'il y avait un investissement de plus de 11 % de la part de l'organisme. Et aussi que ça permettra un renouvellement de la clientèle, à la fois la clientèle locale et la clientèle de l'extérieur et aussi pour les groupes scolaires. faut savoir que le site en Abitibi. Et dans le projet, on voyait aussi...
On a manqué la dernière phrase, Véronique. On a manqué la dernière phrase.
Donc, je mentionnais que l'exposition, le renouvellement de l'exposition vise aussi le renouvellement de la clientèle qui sera à la fois locale, qui va retourner au musée avec une nouvelle exposition, mais la clientèle aussi de l'extérieur, entre autres pour les groupes scolaires, plusieurs proviennent de l'Abitibi pour la visite du Théâtre Réper. C'était aussi mentionné qu'il y avait des partenariats envisagés, entre autres avec Témiscaming First Nation, et on a noté que c'était un dossier qui était très bien présenté et documenté. Donc, pour toutes ces raisons, le comité du GAM vous recommande le soutien tel qu'il a été demandé, soit 10 000 pour 3 % du coût de projet.
Question, commentaire pour Véronique? Non, je recevrai une proposition. C'est Charles Robert. Ça va être Coderre. Parfait. Merci. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup, Véronique. Simplement, vous mentionnez qu'il y avait également un autre dossier à l'étude et on a informé les promoteurs qu'il y avait un appel de projet et que le projet pouvait être déposé dans le contexte de cet appel de projet-là. C'était une demande de transférer un budget sur un projet vers un autre. Je vous donne l'information, comme on l'a donné aux promoteurs, c'est que on ne peut pas, si le budget est attribué à un projet, et que le projet ne se réalise pas, on doit annuler simplement. C'est une question de reddition de comptes. C'est une question de quand nous, on fait les déclarations associées à l'utilisation des fonds du FRR, on a autorisé un projet, on ne peut pas transférer à l'intérieur des organismes, des municipalités, des sommes qui ont été attribuées à un projet. C'est une reddition de comptes. Alors, l'argent n'est jamais attribué à un organisme. Elle est toujours attribuée pour la réalisation d'un projet. Donc, on a transféré simplement la demande en disant au promoteur de nous rediriger le projet à l'intérieur de la proposition qui sera l'appel de projet qui se terminait lundi. Donc, et je pense qu'on souhaitait qu'on on fasse ce rappel-là à notre niveau aussi parce que les municipalités sont très souvent promotrice dans ces projets-là. C'est important de savoir les budgets sont attribués à la réalisation d'un projet. Ça va, merci beaucoup. Alors, on passe au point 11, Raid Aventure, édition 2022,
Lynn. Oui, donc, ce topo qu'on vous a fait en caucus, c'est-à-dire que pour l'édition 2022, on aurait un budget autour de 600 000, c'est-à-dire de bonifier de financement qui était déjà attaché au budget 2022, 125 000 de bonifier d'une nouvelle contribution additionnelle de 25 000
proposé par Luc Lalonde, appuyé par Marco, merci. Ça va pour tout le monde? C'est bon? Oui.
Dans la résolution, on dit que la MRC va bonifier 25 000, de nommer la MRC. Comment faire?
Non, je l'ai enlevé.
Mais faut que tu mettes à jour. Regarde.
Non,
Non, c'est pas rafraîchir la page. Désolée. Hey, je suis rendue que même moi, je sais ça. Franchement. Bon. Alors, on passe au point 12, entente sectorielle de développement en matière de concertation régionale. Simplement. Oui.
En fait, c'est rien que la première partie de la résolution qu'on garde.
Oui.
J'ai nommé à l'émercé, j'avais mon père d'autoriser, ça reste.
C'est le seul, comme je l'ai mentionné, le seul mention qu'il va y avoir dans la résolution, c'est que l'émercé, c'est quand même bonifie le financement par une contribution additionnelle de 25 000. On arrête ça.
Oui, merci.
Tu es toujours d'accord?
Oh,
oui, parfait. Alors, entente sectorielle, peux-tu y aller, Daniel?
Oui.
Merci. Entente sectorielle de développement, c'est pour vous dire, le fonds Région Ruralité volet 1, le FAR, peut être utilisé pour des ententes sectorielles. On en a discuté certaines pour l'attractivité, certaines sont en discussion seulement pour le développement de la filière des productions de viande en Abitibi-Témiscamingue. Et la conférence des préfets a aussi sollicité une entente sectorielle de développement en matière de concertation régionale, c'est-à-dire des sommes pour soutenir l'activité de la conférence des préfets. Je vous rappelle qu'on est à peu près la seule région du Québec où les MRC ont accepté, à même leur fonds de développement, de soutenir financièrement une infrastructure de concertation régionale, et ce, depuis 2015. Dans ce contexte-là, en sachant qu'on peut faire une entente sectorielle pour soutenir les conférences régionales, les organismes de concertation régionale, on a souhaité faire une entente sectorielle de développement de concertation régionale avec le FAR, et on vous demande ce soir que vous m'autorisiez à signer ces ententes-là pour et au nom de la MRC pour l'entente sectorielle Abitibi-Témiscamingue pour la concertation régionale. Est-ce que j'oublie quelque chose, Renata? Alors, c'est proposé par... Oui, Alexandre, une question? Proposé par Alexandre. Appuyé de... C'est la proposition complète. Celle qui est écrite sur la plateforme. Carvoduc signe et Lynn peut aussi agir à titre de représentante. Alors, Alexandre a proposé, c'est appuyé de Luc Lalonde.